notre invité de questions pernicieuses.
Voilà, bah je pense que on peut dire que la chasse est ouverte. La chasse est ouverte.
Vous êtes avec nous.
Voilà.
Bon. Alors Gilbert, j'aimerais savoir d'abord par qui et quand fut créé Pulsar et qui en fut à l'origine. Est-ce que tu peux en quelques mots dresser l'historique de ce groupe?
Oui, en quelques mots c'est un petit peu difficile parce que c'est quand même un groupe qui a un parcours un petit peu long. Mais bon, alors ça a commencé, il faut dire qu'on était déjà des copains de lycée, des copains d'enfance, vraiment avant d'être des musiciens. Et chacun de nous a appris à jouer avec l'autre, ensemble, simultanément. Ce qui fait qu'on a monté notre groupe au début des années 65-66, avec toute la mouvance anglaise de l'époque, qui était, bon... qui allait du rhythm and blues à la musique non pas progressive à l'époque, mais qui
non, était, ça n'existait pas encore.
Oui, qui était très proche de Pink Floyd, enfin de Soft Machine, des choses comme ça, quoi. Ce qui fait qu'on a appris à jouer un petit peu ensemble, tout en étant au lycée, en continuant nos études, nos chères études. Et puis peu à peu, bon, le groupe s'est mis à fonctionner un petit peu de partout. D'ailleurs, on a joué ici à la Rotonde des Humanites, ça devait être en 69. Je sais pas si ça existe encore.
Oui, ça existe encore, tout à fait.
C'est encore un souvenir très très présent à mon esprit.
On pourra rêver et puis revoir ça.
Oui, c'est ça. C'est une chose que j'aurais aimé faire.
C'était complètement psychédélique à cette époque-ci, quoi. C'était beaucoup moins structuré que ce qu'on a pu faire par la suite. Mais c'était donc la première image de la jeunesse qu'on pouvait donner à notre musique, quoi. Alors donc, les premiers fondateurs, c'était donc Jacques Romand,
au clavier,
le frère de Jacques Romand, qui était le bassiste, le plus âgé du groupe à l'époque.
Philippe Romand.
Voilà. Moi. Et puis Victor donc est venu par la suite.
Victor Bosch.
Voilà, Victor Bosch, voilà, c'est ça.
D'accord.
Voilà.
Donc des amis de lycée, ça c'est vraiment très curieux, c'est rare, hein, parce que bon, en général les groupes se prennent un peu partout, un musicien par-ci, un musicien par-là. Là c'est ce qui explique que même maintenant encore vous êtes soudés.
Oui, parce que ça correspond en même temps, non pas uniquement à la musique, mais à tout un mouvement qu'on vivait simultanément à la musique, quoi. Donc c'était... la musique au départ était un petit peu un prétexte par rapport à toute la mouvance qu'on pouvait vivre dans le lycée et tout ça. Donc ça correspondait à l'avant 68, où il y avait toute une émergence de choses qui étaient en train de se réaliser.
Déjà avant 68, t'as commencé à...
Oui, complètement. Ah. On faisait pas tout à fait la même musique, mais disons qu'on jouait déjà beaucoup. Et donc le groupe a commencé à s'orienter vers ce genre de choses. Donc on a senti des choses qui venaient d'Angleterre, tel Floyd, de Soft Machine, des choses comme ça, dès 68, 67, 68. Donc on a vraiment réussi à faire notre analyse de cette musique à partir de cette période.
Mais par goût ou par opportunisme?
Non, absolument pas par opportunisme. C'était carrément une envie d'être dans une mouvance. Et puis en fait, moi j'ai commencé, j'avais 14 ans, il faut dire les
D'accord.
choses que j'étais. Donc l'opportunisme à cette époque n'existe pas tellement.
D'accord.
Mais c'était surtout une envie et quelque chose de très important qui faisait qu'on était en prise directe avec notre époque, donc avec la musique, donc avec un mouvement, donc l'envie d'être quelque chose d'important en fin de compte.
Est-ce que les musiciens avaient des antécédents musicaux? Je pense pas, hein, puisque vous étiez...
Si, un petit peu. Enfin, moi, j'ai beaucoup joué de guitare avant. J'ai commencé quand j'étais tout petit avec mon papa, tout ça. On a fait beaucoup de choses.
Ouais.
Mon père faisait du musette. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses comme ça, qui n'avaient strictement rien à voir.
Mais donc,
j'ai commencé à faire de la scène beaucoup plus tôt. Jacques aussi sortait d'un milieu beaucoup plus classique, avec des études musicales plus poussées que les miennes. Victor, lui, était totalement autodidacte par rapport à ça. Le bassiste aussi, donc, qui était le frère de Jacques, avait avait fait des études qui étaient plus proches du classique que moi. Donc, tout cet ensemble a fait qu'on s'est intéressé au départ venu d'horizons différents. Ça fait un mélange un petit peu bizarre qui a fait qu'on a fait monter le groupe comme ça.
D'où vient votre nom? Est-ce que le nom, est-ce qu'il a une signification? C'est un choix délibéré? C'est un côté un peu philosophique? Ou est-ce que c'est accidentel?
Au départ, bon, c'est le groupe s'appelait Free Sound. À l'époque, on a joué à la Rotonde des Humanites, là.
Ouais.
Donc, on s'appelait Free Sound. C'était bon.
Effectivement, un peu psychédélique.
Voilà,
liberté,
c'était entre Hendrix, les Stones, enfin tout ce mouvement-là.
Ah, d'accord.
Et bon, Philippe type Roman qui était un petit peu l'instigateur au départ de cette nouvelle destinée du groupe, qui lui était très influencé par la science-fiction, au niveau il lisait énormément de science-fiction, a pensé que ce groupe pourrait être intéressant.
D'accord.
Ce nom de groupe, correspondant tout à fait à ce qu'on allait faire, quoi, par rapport aux paroles surtout qui étaient sur Pollen, par la suite, et des choses comme ça, quoi.
Ok. Voilà, déjà pour le début de Pulsar, les prémices. On a vu donc les membres, on a vu donc le nom de ce qu'ils venaient. Quels étaient, on l'a vu un petit peu, mais bon, on peut peut-être préciser un peu quand même. Quelles furent ou quelles étaient les influences du groupe, hein? Est-ce qu'il y a eu, bon, dans la carrière de Pulsar, bon, on avait au début, mais après, est-ce qu'il y a eu des périodes avec des influences bien précises? Bon, je pense, entre autres, à Halloween, où il a été clairement dit que Mahler avait influencé énormément cet album. Bon, est-ce que tu peux préciser un peu ça?
Oui, ben, c'est-à-dire le parcours d'un groupe de rock ou de progressive musique est un petit peu bizarre, quoi. De toute façon, chaque personne amène des disques. Par exemple, en répétition, nous, on travaille d'une manière un petit peu bizarre. Alors, bon, chacun arrive avec ses albums, pas pour copier ou quoi que ce soit, mais c'était simplement une question de passion. On arrivait, on se disait, tiens, j'ai écouté ça cette semaine. Bon, ça pouvait aller des Beatles, ça pouvait aller des Stones, ça pouvait aller de Floyd, n'importe quoi. Et puis il y en a d'autres qui se branchaient plus sur le classique, notamment, donc il y avait une étude un peu plus classique au départ, comme Jacques Roman et Philippe Roman, qui nous amenaient des albums. Pour parler d'Halloween, parce que c'est un des plus récents, on était un petit peu en recherche après le second album qui avait bien marché d'ailleurs.
The Strands of the Future, voilà. Sorti en 2017.
Et on avait besoin, on a constamment besoin, quand on fait un album, quand on fait des tournées constamment comme on l'a fait, de se ressourcer constamment. Et donc on avait des contacts, des tas de choses au niveau du rock'n'roll, au niveau de chacun de nous avait une mouvance particulière. Et donc on s'est retrouvé complètement au milieu de la musique de Mahler, un jour en répétition comme ça, on était dans une ferme, je me rappelle plus où c'était d'ailleurs, on répétait Halloween avant d'entrer en studio en Suisse, et on s'est dit c'est ça qu'il nous faut, parce que c'était la musique qui portait à l'époque pour nous la plus d'émotions. Le plus d'émotions possible.
Ouais, c'est vrai
possible.
Que vous êtes en train d'émotions.
Avec autant le côté passionnel,
ouais, tout à fait
côté
désespéré.
Voilà, c'est ça.
Mais très mélancolique.
Voilà, voilà. Et qui correspondait complètement à l'histoire d'Halloween. Donc c'est pour ça que, si tu veux, on s'est retrouvé dans cette histoire Mahler à complètement planer dessus et à inventer l'histoire.
Est-ce que Moravnis, qui est sorti à peu près dans ces eaux-là, je crois, vous a influencé ou pas?
Ah, complètement, oui. C'était un des films. Oui, absolument. Oui. C'était un film phare de cette époque-là qui nous a complètement influencé, de par sa lenteur. Parce que si tu écoutes Halloween, il y a quelque chose. Bon, si tu veux, ça se fait. Hein, c'est pas des chansons, ça se fait en deux faces. C'est une histoire qu'on raconte, une petite fille avec des choses très ambiguë dedans.
Précise un peu l'histoire, pour moi elle reste assez floue, l'histoire d'Halloween.
De toute façon, ça restera, chacun y retrouvera un petit peu son compte. Bon, c'est une histoire qui se passe dans la tête d'une petite fille et qui, si tu veux, on a l'impression que cette gamine parle vraiment avec un personnage. Et donc, tout se déroule autour d'un... Elle parle à quelque chose ou à quelqu'un, mais en fin de compte, à la fin de l'histoire, on se rend compte qu'elle parle à un bouton. Simplement un seul bouton. Tout s'est passé dans son imagination sans que un seul instant on ait pu croire à ça. Et en fin de compte, c'était simplement de l'imaginaire pur.
Du rêve.
Voilà, du rêve pur. Ce qui fait
très nébuleux.
Voilà, toute cette musique est basée là-dessus. Et voilà donc.
Mais alors pourquoi ce titre Halloween? Parce que bon, on pense tout de suite à la fête de la Toussaint, les enfants déguisés aux États-Unis. Et pourquoi ce titre-là? Pour cette ambiance, j'ai l'impression que ça fait un petit peu contradiction.
Oui, c'est ça. Mais en fait, tu sais, les titres chez nous, ça a toujours été une question d'embellissement des choses. Ça n'a jamais été très très important. Mais en fait, là, avec le recul, je me rends compte que l'histoire d'Halloween a toujours un côté ambigu, si tu veux, entre les sorcières d'un côté et le côté magique, le côté très beau des choses.
Et le côté enfant. Hein,
c'est ça. Et donc, ce que je te disais avec le bouton, le côté imaginaire un petit peu cruel de cette histoire, malgré tout, qui fait qu'on retrouve les deux facettes d'Halloween. Voilà.
D'accord. Bon, est-ce que les trois albums qu'on connaît bien de Pulsar, on parlera après de Bienvenue au Conseil d'Administration, est-ce que donc Pollen, The Strange of the Future et puis Halloween représentent bien votre évolution et ce que vous avez fait au niveau musical, ou est-ce qu'il y a eu des choses qui sont restées un peu dans l'ombre ou qui n'ont pas été dites, etc. Est-ce que ça colle bien votre évolution à votre...
Je pense que oui, complètement, parce que de toute façon, c'est vrai qu'on on regrette toujours, c'est-à-dire on se dit on aurait pu mettre ça, parce qu'il s'est passé un truc avec Pulsar, toujours de toute manière, c'est qu'avec les tournées, on tournait quand même plus de 200 jours par an, c'est-à-dire qu'on tournait constamment.
Vous êtes baladé pas mal, je crois, en Europe.
Ah oui, on a été vraiment partout, sauf aux États-Unis, je crois que c'est la seule.
Et vous êtes allé où, pour donner un petit peu un exemple?
Oh, on a fait l'Allemagne, on a fait l'Italie, on a fait la Belgique, on a fait la Suisse, Portugal, c'est là où on a remporté le plus gros succès d'ailleurs.
La Grande-Bretagne?
Grande-Bretagne, oui, on a fait une tournée de 3 semaines, à l'époque de Kingdom, à l'époque donc du premier album, et c'était genre un choc pour un groupe français, parce que c'était déjà un...
Signé sur un label anglais, qui plus est, suite Caravan,
c'était un petit peu énorme pour nous qui venions de Lyon, donc en plus on a fait toute la traversée d'une seule traite, et on s'est retrouvé sur au Marquis Club le soir même. C'était un petit peu dur pour un groupe de Saint-Jean, quoi, à la limite. Mais donc ça forge un petit peu le caractère, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, quand même.
Ça tient un peu du conte de fées, là.
Ah oui, c'est ouais, assez dingue. Ouais, absolument. Pour toi, comme ça, ouais. C'est assez dingue.
Ouais, ouais,
mais absolument. Donc, pour revenir à ces albums, ils tiennent bien compte de votre évolution musicale et de ce que vous vouliez faire.
Oui, absolument. Bah, de toute façon, je veux dire, chaque musicien a certainement des regrets par rapport à des choses, des trucs. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'on a toujours travaillé, toujours tous ensemble, une espèce de synthèse qui faisait qu'à la fin, tout était passé au tamis. Donc, chacun a amené des idées, et le meilleur de toutes les choses, en fait, il n'y avait pas une personne qui disait « je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça ». On a toujours travaillé ensemble en collaboration. Ce qui fait que c'était le meilleur de chacun de nous quatre ou de nous cinq, suivant la mouvance dans laquelle on était, qui faisait qu'on avait le meilleur passé au tamis. C'était le cas pour Halloween, on s'est enfermé pendant un mois dans une ferme avec des histoires, des tas de choses, du rêve, beaucoup de choses, surtout du rêve, et surtout énormément de travail aussi, et qui fait qu'on a pu réaliser ces albums en... Quand je les écoute actuellement, je dis, bon, c'est une époque de ma vie, une époque de la vie de l'acte, de la vie, mais qui est totalement en accord avec cette époque-là, sans aucun problème.
Et les deux premiers albums, tu m'avais dit une fois, avaient été enregistrés presque en live, c'est-à-dire que vous aviez joué d'un seul tenant vos morceaux, alors que Halloween, si je dis pas de bêtises, les morceaux ont été coupés petit par petit, et comme un pulse, un petit peu assemblés les uns après les autres. C'est ce que tu m'avais expliqué, ça m'avait énormément étonné d'ailleurs.
Oui, ça c'est des techniques de studio bon qui se font toujours, c'est ce qu'on appelle le re-recording. Mais le problème d'Halloween, c'est que c'était un album qui est complètement fractionné en des tas de petites séquences comme ça, comme au cinéma. C'est des
plans. On n'a pas l'impression, on a l'impression d'une homogénéité. Oui, c'est assez dingue.
Ça, c'est des plans montage, des plans de séquence, bon, ce qu'on appelle le plan séquence au cinéma, qui est rejoint après donc avec un vrai monteur, avec donc chaque plan séquence, à la limite pour parler comme du cinéma ou de la télévision, était enregistré à part. Et ensuite, on les montait sur un 24 pistes. Alors, ça se fait toujours maintenant, mais c'était à l'époque, ça se faisait pas tellement. C'était une technique un peu particulière, qui fait que chaque chose est homogène par le montage lui-même. C'est-à-dire qu'on rejoignait les choses, chaque séquence, entre chaque séquence, je veux dire, il y avait une atmosphère qui faisait qu'on pouvait lier les deux séquences. Et qui, bon, c'est vraiment le principe de caméras croisées.
Et les séquences étaient de combien de temps
ça dépendait vraiment des chansons, en fin de compte, oui. Ouais. Il fallait compter entre 2 à 3 minutes, oui.
Tout ça a été fait dans, je le rappelle, dans le studio Aquarius, où joué, entre autres, peu de temps avant, Yes, pour Going for the One. Michael Field, je crois, si je me
souviens. Oui, c'est ça. Et en plus, il y avait Michael Field, il y avait aussi le guitariste de jazz, là, qui est très très connu, qui fait des choses très belles aussi, qui est un type très rapide, McLaughlin, voilà.
Effectivement.
Et donc, moi, j'ai eu la chance, justement, d'arriver une semaine après McLaughlin, c'est-à-dire que lui avait fait un album uniquement à la guitare sèche. Donc, j'ai pu bénéficier du son, exactement de la cabine dont étaient montés les micros, pour bénéficier enfin d'un son qui était révolutionnaire à l'époque, qui était très pur, très net.
C'est vrai que le son de guitare est très présent et très...
Oui, ouais, c'est ça. Donc, mais ça, c'est une somme d'expériences de tas de musiciens qui sont passés avant, internationaux, qu'on n'aurait peut-être pas eu à cette époque en France. Bon, parce qu'il n'y avait pas la même expérience. Les studios étaient de même qualité, mais les expériences étaient plus internationales en Suisse, quoi.
Bon, je pense qu'on va peut-être, si l'ingénieur du son est d'accord, passer maintenant un petit intermède musical. Et on continuera donc après sur l'interview de Gilbert Gandil.
Oui, donc moi je voulais d'abord préciser, si vous prenez juste l'antenne à l'instant, que vous êtes sur Radio Brume 95.5 avec Bande à part, l'émission du rock progressif, des rock progressifs de tous les âges, puisqu'on a ce soir en émission exceptionnelle Gilbert Gandil, le guitariste de Pulsar. Voilà, histoire de préciser un peu l'histoire, où est-ce qu'on en est en ce moment.
Voilà, donc si t'es d'accord, on va enchaîner avec un groupe allemand assez majeur aussi, puisqu'il s'agit de Grobschnitt. On a déjà passé...